Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à La Croche-Oreille, l'émission en art audio de CKRL, une émission qui vous parvient tous les dimanches soirs. Je m'appelle Jean-Pierre Gay, je suis avec Myriam Lambert. Bonsoir, Myriam.
Bonsoir, Jean-Pierre.
Myriam, cette semaine, on accueille quelqu'un qui est une partenaire de radio, qui a fait longtemps de la radio à Radio-Canada, qui a, pendant 30 ans, en fait, a œuvré dans le domaine que nous, on explore, c'est-à-dire la musique contemporaine, la musique actuelle, l'art audio. Et qui, un jour, a dû prendre un virage et se retrouver à faire elle-même son propre travail d'artiste. Donc, c'est Hélène Prévost que nous recevons ce soir.
Bonsoir.
Bonsoir Hélène.
Bonsoir Myriam.
Hélène, 30 ans de radio, c'est pas banal. 30 ans de radio dans un domaine aussi précis, aussi pointu, aussi à l'avant-garde. D'avoir à quitter ça, ça n'a pas dû être facile pour toi?
Non, c'était un choc, c'était une rupture, c'était une séparation, mais que je voyais venir, je la sentais venir. Je dois dire que j'ai fait 6 ans à la première chaîne avant d'aller à la chaîne culturelle et d'être vraiment dans ce domaine plus pointu, mm-hmm. la musique contemporaine. J'ai fait mes classes, en fait, en faisant du quotidien, du direct, mm-hmm. avec Chantal Joly, entre autres, pendant mm-hmm. des années.
Ouais.
Et j'ai adoré la radio immédiatement, mais j'ai vraiment appris le métier, les réflexes. J'ai développé beaucoup de réflexes avant de passer à la chaîne culturelle pour faire des émissions hebdomadaires, comme vous faites, de format magazine où on faisait du reportage, de l'enregistrement de concerts. Et ça a été une autre école, un autre monde. Mais j'ai été nourrie par l'école du direct, du live.
Mm-hmm.
Et je pense que j'ai toujours aimé ça, de vivre sur la corde raide.
Mais ça doit être quand même assez différent que de passer de ce live-là, de ce défi de toujours être à point et de se retrouver tout seul devant ses appareils, devant ouais. ses machines, de créer ouais. sa propre œuvre, puis de la diffuser, puis de vouloir la faire diffuser.
C'est pas mal épeurant. C'est pas mal épeurant. Et ça a été peut-être le grand tournant de quitter la position du réalisateur, et j'étais animateur, animatrice mm-hmm. les dernières années. C'est comme un changement de point de vue complet. C'était vraiment... c'était un passage un peu comme Alice au Pays des Merveilles, passer à travers le miroir. J'ai toujours eu une pratique personnelle depuis que je suis toute petite. J'ai toujours exploré le son, fait du bricolage, fait de la musique de scène, de cinéma, et de tout ça. Mais mon jardin personnel, j'avais jamais eu le temps de m'y consacrer à temps plein. J'étais trop en contact avec les artistes et leurs pratiques pour penser même faire des choses en mon nom pendant ces années-là. Et le fait d'avoir eu accès à ma propre pratique, ça a été une joie incommensurable. J'ai oublié ta question. Mais, c'est ça, le fait de me ramasser toute seule.
Ben oui.
C'était en même temps jouissif et épeurant parce qu'il n'y avait plus une équipe autour, il n'y avait plus de techniciens, il n'y avait plus de collaborateurs. Là, c'est t'as voulu parler, t'as voulu te mouiller, ben vas-y maintenant. Et c'est de s'assumer. Et c'est du jour au lendemain, j'ai changé mon CV, en fait. J'ai pris tout le bloc réalisation, mais je l'ai mis à la fin de mon CV, puis j'ai mis tout ce que j'avais fait en création en haut. Puis là, j'ai mis Hélène Prévost, artiste sonore, réalisatrice radio. Puis là, je l'ayant écrit, j'ai dit, assume-le maintenant.
Parce qu'il faut comprendre que tu as été 30 ans, c'est ça, 30 ans animatrice de Radio-Canada?
Bien, réalisatrice, puis okay. animatrice peut-être pendant 7-8 ans.
OK. Puis, en fait, dans tout ça, par la suite, comment ça s'est développé? Qu'est-ce qui t'a amené à faire plus de l'art audio que plus de la musique contemporaine? Ou...
Parce que je te dirais que c'est l'histoire de ma vie depuis que je suis toute petite. Il y a des souvenirs qui remontent plus maintenant, mais je veux dire, j'avais 10-12 ans et j'étais fascinée par la radio, mais pas par la radio parlée, par les fréquences. Okay. par l'espèce de bruit, entre guillemets, qu'il y a entre deux fréquences. Mm-hmm. Je veux dire, j'étais fascinée par ça depuis que j'étais toute petite. Te dire que j'ai eu le sentiment qu'un jour, ça serait ma vie, ça serait mentir, mais je pense que je portais ça. J'ai quand même étudié la musique, mais j'ai toujours été comme... J'avais une vie parallèle, en fait. J'ai fait beaucoup de laboratoires chez moi ou avec des amis ou même quand j'ai fait de la musique de scène, j'essayais toujours de bricoler des choses, de brancher des affaires ensemble qui n'avaient pas nécessairement rapport. Et en suivant le travail des artistes pendant des années, j'ai nourri cette pensée-là inconsciemment, je pense. Je m'en suis aperçue une fois que j'ai quitté la radio. J'ai pris conscience du jardin sonifère énorme que j'avais fréquenté pendant toutes ces années-là. Okay.
On pourrait peut-être écouter, juste pour se mettre un peu dans l'ambiance, Hélène,
oui.
d'une première pièce de ton travail récent,
oui.
qui est...
24 gauche.
24 gauche.
Suite à une performance que j'ai faite dans une petite galerie à Montréal, mm-hmm. qui, une fois par mois, depuis un an, le dernier mercredi de chaque mois, présente des artistes audio. Les commissaires sont Magali Babin et okay. Patrice Coulombe.
Qu'on va recevoir.
Et Éric Aubertin, qui est un peu le père spirituel de la galerie. Un tout petit endroit, mais qui permet de développer des projets très, très personnels. Puis c'est un petit extrait que je vous ai apporté de cette performance.
On y va.
Donc, 24 gauche.
Thank you.
Hélène, quand on écoute ça, on a l'impression des fois de, qu'on est dans la musique contemporaine, dans la musique d'avant-garde. On ne sait plus trop ça parce qu'il y a des, y a des mouvements qui sont très...
Continue.
On a l'impression qu'il y a du violon quelque part là-dedans, mais ce n'est pas du violon. Là. Toi, est-ce que tu fais une frontière entre l'art audio, entre la musique contemporaine, la musique expérimentale?
Tu m'as averti que tu me poserais la question. Je me disais, qu'est-ce que je vais répondre? Je pense que je devrais... C'est-à-dire que... Ce sont des entités qui ont leur vie propre, qui ont leurs conditions propres. Donc, forcément, il y a ce qu'on appelle une frontière. Mais ce n'est pas une frontière étanche. Il y a quelque chose qui passe à travers tout ça, mais c'est peut-être juste important de savoir quel est mon point de vue, quel est mon point d'écoute, comment j'écoute. Puis j'ai pensé te donner un exemple, c'est que je suis allée à l'ouverture de l'adresse symphonique à Montréal, la fameuse adresse symphonique. J'étais au concert d'ouverture. Et j'ai passé mon temps à osciller entre l'écoute de la musique et l'écoute de la salle.
Ce que beaucoup de gens ont fait aussi.
Oui,
hein,
et j'aurais pu passer une heure et demie, dans le fond, en me mettant dans en écoutant les murs, en écoutant les résonances, les retours de percussion, les cuivres, et où l'inverse. Donc, déjà là, il y a une différence, il y a une distinction. Puis selon l'art audio va nous vous convier à une écoute. C'est une question extrêmement complexe. Je veux dire, on pourrait être ici pour toute la soirée.
On pourrait faire un séminaire là-dessus.
Ça suit aussi l'histoire de la musique. Ça situe aussi l'évolution de la technologie. Ça situe aussi toute l'historique de l'amplification de la musique et des supports. Ça, c'est aussi toute l'architecture, le design, l'ingénierie, comment on fait vibrer une salle, les matériaux, ce qu'on sait maintenant, ce qu'on ne savait pas il y a 100 ans, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des salles extraordinaires. Mais tout ça évolue dans des mondes parallèles. C'est important, je pense. Si quelqu'un arrive et écoute une musique actuelle assez rébarbative et sort d'un concert où on a entendu du Brahms, il dit « Oh, mais c'est pas de la musique, qu'est-ce que c'est? » C'est un instant, on va se parler, on va voir quelles sont les lois qui gouvernent ces univers-là.
Mais c'est drôle parce que quand tu parlais, je trouve ça me faisait penser à John Cage, avec c'est 3 minutes 33?
Oui, 4 minutes 33.
4 minutes 33.
Ouais. Mais maintenant, on vit vite, ça peut être rendu ça.
Donc voilà, ça doit être à cause de ça.
Si que on veut que ça passe à la radio.
mais en même temps, là, tu parlais comme si quand tu vas voir un show, tu arrives dans la salle, puis là, tu écoutais les sons de la pièce, puis de la pièce de l'architecture,
de l'œuvre. Ah, oui.
Puis de la pièce de l'œuvre, justement. Oui. Mais est-ce que, à la limite, tu penses que l'art audio, c'est presque une question de perception?
Je pense qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup de psychoacoustique dans l'art audio. Mais encore, c'est difficile parce qu'on parle en abstraction, on ne parle pas avec des références précises.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à la limite, mettons, s'il y a de la musique contemporaine qui joue, puis la façon que tu écoutes la pièce, puis qu'il y a des ventilateurs au plafond, on entend les ventilateurs. Est-ce que ça pourrait finir par une question de perception, faire en sorte que, tous les bruits de la place...
Je pourrais me mettre dans cet état d'écoute globale. Et je pense que Pauline Oliveros serait peut-être d'accord là-dessus. Oui, ça pourrait être un choix. À la limite, plutôt que de résister puis de me plaindre parce que j'entends la ventilation, je peux décider de l'intégrer. Je pense que ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de bonne volonté.
Beaucoup d'ouverture d'esprit
et,
aussi.
Et peut-être un certain sens du plaisir. Moi, je l'ai, ce plaisir-là. Des fois, souvent, je suis avec des gens qui ne partagent pas ma même perception du monde ou mon même appétit. Et j'entends des choses qu'ils n'entendent pas. Je fais des liens qu'ils ne font pas nécessairement. Parce que moi, j'y prends mon plaisir.
Dans ton travail, tu vas chercher justement, tu fais des... Tu écoutes des choses, tu entends des choses que d'autres gens n'entendent pas. Tu parlais dans ton travail que tu vas chercher dans les... Par exemple, à la radio, le son des fréquences.
Oui, des fréquences.
Tu vas chercher ce qu'il y a entre deux sons quelque part. Et ça fait beaucoup partie de ton travail aussi.
Et je pense que c'est inconscient. Je me rends compte, actuellement, l'environnement dans lequel je travaille, il y a beaucoup d'appareils radio. Là, je me calme. Là, je n'en ai qu'un ou deux dans mon environnement. Mais à un moment donné, je travaillais avec 3-4 radios, dont deux qui étaient défectueuses parce que je trouvais ça très intéressant, l'espèce de foisonnement des fréquences qui émergeait. Parce que je cherchais une source de son continu, puis je me disais, une radio, c'est extraordinaire. Un appareil radio, tu le branches dans le mur, tu put it on et il y a, tant qu'il y a de l'électricité ou tu mets des piles, il y a un signal continu. Ça remplace cet archet du violon que je n'ai pas pour générer une source sonore. Puis étant donné que je ne veux pas travailler par informatique quand je fais de la performance, je me sers un peu d'informatique chez moi quand je travaille pour traiter mes sons, pour mais essentiellement, je traite peu, je traite plus quand je fais une performance live, en égalisant beaucoup, puis en faisant des traitements en temps réel. Mais je cherchais toujours cette source continue de son, et c'est le radio qui me l'a donné. Mais c'est pas la radio qui est référentielle dans le sens par la parole ou par la musique. C'est le radio comme générateur de signal. Un signal sans nom, comme le thé.
Donc, c'est en sortant de la radio que tu as commencé à être à te dévoiler artiste sonore.
Ouais, ben c'était là avant, je te dirais, mais j'ai décidé de m'assumer comme artiste. C'est ce que je dis publiquement.
OK. Puis c'est par la radio que se développe ton travail. Par le médium radio.
Actuellement?
Ouais.
Par l'appareil. Pas par le médium.
Okay.
C'est par l'appareil. Parce que c'est comme si toute ma façon d'écouter avait bifurqué de 180 degrés. N'étant plus dans une position où j'organise une émission, du temps, de l'espace, un contenu, et où j'ai à faire la promotion d'une sorte de musique, je suis complètement de l'autre côté. Je suis du côté de la personne qui crée ce contenu-là. Et c'est comme si la radio, je sais que ça fait partie de ma vie, ça a fait partie de ma vie, mais je ne suis plus dans le même point de vue. C'est comme si on m'avait lâché lousse dans la mer. Je suis sortie, j'ai quitté le fleuve, quelque part, d'une certaine manière. Okay. Et je navigue dans une eau qui est tellement vaste que je me laisse aller là-dedans. Et que l'appareil radiophonique soit réapparu dans ma vie ces derniers mois ou ces dernières années, je le laisse faire. Je me dis, les gens font tout de suite une association. Ben oui, t'as fait de la radio, donc tu travailles. Non, c'est pas si évident que ça. Peut-être que j'aime tout simplement la boîte. Je change à m'acheter un iPod puis à faire des perfos avec plusieurs iPods, mais il y a des contraintes. Dans ces nouvelles mécaniques. Il y a des choses que je peux faire avec un appareil traditionnel que je suis pas capable de faire avec un iPod.
On va écouter une autre pièce, Hélène, c'est laquelle?
C'est Prémix C11. Ça, c'est un titre de travail. C11, c'est un extrait d'une performance que j'ai fait au conservatoire il y a un an. C'était un show de femmes, en fait. C'était au moment de l'anniversaire, au mois de mars, c'est ça? Et C11, Conservatoire 2011.
On écoute. Alors, c'était une autre œuvre d'Hélène Prévost. On s'en va en pause publicitaire et au retour, on va vous recevoir avec quelque chose qui est un petit peu plus, qui date de quelques années, quand même de 2008, une pièce qui s'intitule Lueur et bâtiment, qui a été présentée ici dans Méduse en septembre 2008 dans le cadre du deuxième Moi Multi, parce que c'était dans le
Moi Multi 9X.
Et voilà. Alors, on s'en va en pause pub et au retour, on continue avec Hélène Prévost.
Mon cher Balila Pratella, mon cher Balila Pratella, grand musicien futuriste. Balila Pratella, grand musicien futuriste. Mon cher Balila Pratella. Mon cher Balila Pratella. Grand musicien futuriste.
Okay. C'est le fun.
À la mode. Je suis contre l'organisation, contre le choix. Je suis pour le chaos. Et je suis pour l'acceptation de n'importe quoi, même Calcutta. Hmm?
Alors, c'était un extrait, donc, d'une pièce qui est parue sur le disque de Luigi Javatar. On a même entendu John Cage.
Absolument.
Hélène, c'était une belle citation.
Oui, puis on vient me demander si j'avais permission, mais je crois que oui. Je crois que John serait d'accord.
Alors, en fait, cette pièce faisait partie de la publication Luigi Javatar. Comme le disait Jean-Pierre avant la pause, Luigi Javatar, c'est en fait, je pense que c'était 10 performances ou quelque chose comme ça.
Oui. Sur deux jours,
en septembre 2008. Donc, c'était initié par Éric Dorion sur le thème de l'art des bruits de Luigi Russolo.
Oui, c'est ça.
Ça faisait partie du mot multi. Mais là, dernièrement, tu as fait aussi une performance dans le cadre du mot multi 13, donc le temps passe.
Ben oui.
C'est une performance dans le cadre des cabarets audio. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que cette performance?
Ben, ça rend compte de ma manière de travailler parce que ça a évolué. Ça a évolué, ça a changé. Ça s'est modulé au cours des dernières années. C'est directement en lien avec une résidence que j'ai fait à Damon, à Gatineau, un centre d'art médiatique à Damon, qui malheureusement actuellement est fermé parce qu'ils ont eu des importants dégâts d'eau. Et ce qui fait qu'il y a bien des résidences qui sont affectées par ça, mais néanmoins j'ai passé un mois extraordinaire, ça s'est terminé en mai dernier, puis j'ai commencé à développer un instrument qui est pas mal encombrant, mais que je trouve assez intéressant. Puis la performance du mois multi est en lien avec ça, c'est-à-dire que à partir de différentes sources sonores que je diffuse, soit sur CD ou à travers des radios qui sont aussi des lecteurs CD, j'ai entre 8 et 10 haut-parleurs de qualité domestique, en fait, qui vont du petit haut-parleur de bibliothèque à des haut-parleurs comme on trouve communément. J'en ai même un qui est, honnêtement, j'ai pris dans les vidanges.
Okay.
avec 2-3 amplis qui me permet avec une même source de me diriger vers un haut-parleur ou vers un autre. Dans le sens que l'ensemble des sons que je diffuse ne viennent pas... tous les sons ne sont pas diffusés sur le système. Donc, je vais avoir certains sons qui vont être sur un haut-parleur spécifique, disons, qui va être à gauche. D'autres sons qui vont être au centre, d'autres à droite. Donc, c'est pas de la stéréo, ce n'est pas du surround. Moi, je dis que c'est de multiples mono. C'est une sorte de multiples mono.
Okay.
Et une même source peut sonner très appauvrie parce qu'elle va sortir par un petit haut-parleur qui n'est pas capable de faire plus, puis elle va sortir avec plus son spectre de fréquence si le haut-parleur est de meilleure qualité. Puis en plus, j'ai accès à tout le système de méduses aussi. Donc, je suis intéressée, le travail que je fais actuellement, par la perception, en fait. Ça fait le lien avec la question que tu me posais tout à l'heure. Et surtout par la grande diversité des points d'écoute, puis ça revient à la question que toi, tu me posais sur la différence entre les musiques actuelles, contemporaines et tout ça. C'est la grande diversité qui nous est accessible, je dirais, qui m'intéresse et qui me fascine. Le prochain projet... Pardon?
Quel genre de diversité? Je comprends pas. Tu dis la grande diversité qui t'intéresse.
C'est-à-dire qu'avec une même source... je peux arriver avec différents rendus.
Okay.
Selon ce que les équipements vont me donner. Enfin, en plus, moi, j'ajoute de la distorsion en cours de route entre la source et le rendu. Alors, voilà, je suis un petit peu dans ce genre de démarche-là actuellement.
OK. Et donc, dans le cadre du mot multi, est-ce que tu as
ça rend compte de ça, de ce travail-là. Donc, sur une table, j'ai une console de mixage, 3 radios qui sont aussi des lecteurs CD, 2 CD portatifs, des pédales, délais, distorsions, EQ, un mini synthé, une pédale qui, où je peux mettre des sources en boucle. J'ai 2 amplis et un système... c'est des systèmes domestiques, mais chacun a comme sa qualité et ses personnalités. Et c'est ce spectre-là, sur la table de 6 pieds, que j'offre donc, à entendre. Donc, il n'y a pas un seul point d'écoute. C'est surtout ça que je pense qui est l'objectif, c'est qu'il n'y a pas un seul point d'écoute. Tu peux t'installer à droite, à gauche,
ça va tout
et
être
ta
différent.
Perception va être... c'est une autre conception de l'environnement, je te dirais.
De l'espace dans lequel tu diffuses ton travail.
Okay. Oui, ben pour moi, et ça, c'est en lien direct avec mon expérience de la radio. Si je peux juste prendre 30 secondes pour l'expliquer. C'est qu'à l'époque où je faisais les émissions de radio, je les travaillais dans mon bureau. J'écoutais. Ensuite, je les préparais pour les faire dans un studio. Deuxième point d'écoute. Là, je les faisais en studio et je les écoutais à la radio le dimanche soir, parfois dans ma voiture, parfois dans la cuisine, parfois dans mon studio, parfois dans la salle de séjour. Puis là, je me rendais compte, je me dis, coudon, c'est toutes des œuvres différentes. Alors là, je m'étais amusée à ouvrir tous les radios qu'il y avait dans la maison puis de me promener d'une pièce à l'autre en me disant, ben, c'est un processus installatif, ça. Et c'est ça vraiment qui a nourri mon travail à Damon. Et j'ai vraiment cherché pendant des semaines et des semaines comment organiser cet espace-là. Puis à un moment donné, j'empilais les haut-parleurs, je les ai mis dans des boîtes de carton, j'en tournais un vers le mur, juste pour voir quel phénomène apparaîtrait. Jusqu'au jour où j'ai décidé de faire une distribution frontale, dans le sens que tous les haut-parleurs diffusent vers l'avant. Ça a l'air drôle à dire, mais c'est qu'au moins, il y a quelque chose qui est uniforme, c'est que le son vient
une horizontalité.
De même endroit. Ouais. Mais c'est pas fini, cette histoire-là. je pense qu'en vous en parlant, je me dis, il faut que je continue encore à empiler des haut-parleurs.
Puis cette pièce-là s'appelle MM12.
MM12, pour moi, multi 2012, tout simplement.
Pourquoi ZE après... en fait, c'est 12,
c'est 12
MM...
E.
12E.
12... comment j'ai écrit ça, non?
Z2.
Ça fait 12 E.
Plus sonore.
C'est ça.
C'est pour rendre le 12 plus sonore.
C'est ça, exactement. Okay, c'est voilà. Ça.
On va passer la prochaine pièce qui est...
Attrape,
qui vient de la publication TAP.
C'est ça, c'est un projet tricéphale où un poète était jumelé à un artiste sonore, à un DJ. Donc moi, j'ai reçu le poème de Paul Bélanger en fichier audio. J'ai jamais rencontré Paul Bélanger. Et là, je pouvais faire vraiment tous les artistes audio, on était 4, à chacun avec un poème, on pouvait faire ce qu'on voulait, le faire disparaître, le triturer, l'étirer, l'amplifier. Une fois que notre travail était terminé, c'était confié à un DJ qui lui aussi pouvait faire ce qu'il voulait. Mais sur le CD, ce qui est le fun, c'est qu'on a les 3. On a le poème tout seul, on a le travail de l'artiste audio et on a le travail du DJ.
Donc là, alors, qu'est-ce qu'on entend?
C'est mon travail à moi.
OK.
Et le poème de Paul Bélanger apparaît à travers.
OK. Donc, attrape.
Jusqu'à la mort de neige. instant. Con minúscula. Comilla. A minúscula con as en to grave la marge de la table. Le crayon nervol. Et je voulais durer encore quelques minutes pour que ne cesse jamais ce vent qui veut retirer l'âme.
Non, c'est toi qui reprends, Myriam.
Alors, c'était... Attrape de la publication TAP.
Oui.
Donc, en fait, là, on a eu, pendant toute l'émission, on a eu quand même une bonne vue d'ensemble de ton travail. Mais on ne t'a pas encore posé la question, mais qu'est-ce que ton processus de création? Est-ce que tu pourrais me l'expliquer en quelques minutes?
C'est un mélange. En fait, c'est un travail électroacoustique dans le sens que je me sers à la fois d'appareils qui sont électrifiés, amplifiés et de sources sonores, soit la voix ou divers sons que je vais échantillonner. Mais mon processus, c'est de travailler en partie dans mon studio en faisant des séances d'improvisation avec une thématique. Je décide de remixer tel enregistrement dans tel contexte et puis j'explore pendant une demi-heure, 40 minutes, et j'enregistre ce matériel-là que je réécoute après et que je recycle. Je vais chercher des fragments de ça pour une performance future. Puis la deuxième, c'est sûr que la meilleure motivation, c'est quand tu as une commande pour un événement, un festival, et puis la thématique du projet. Puis là, j'oriente le travail. Mais je te dirais que c'est un travail de trial and error, d'exploration, d'incident. Un jour, j'enregistre une source qui me donne une piste de travail. Je l'explore, soit par la distorsion ou par l'amplification. Et j'écoute, et puis j'analyse, et puis je recycle. Je recycle beaucoup le matériau, en fait. comme le petit pousset, je ramasse les miettes de pain, puis je les recycle, je rebricole une autre direction, si tu veux, aux matériaux.
Mais selon l'endroit où est-ce que tu vas diffuser ton travail?
Ça, c'est assez important. C'est assez important, l'espace de diffusion. Pas exclusivement, parce que chez moi, je ne peux pas travailler très, très fort. Donc, je travaille souvent à un niveau minimal, même si je sais que dans la salle, je vais diffuser à un niveau maximal. Ça prend beaucoup d'imagination.
Je te pose la question parce que tout à l'heure, avant l'émission, tu me parlais que tu avais fait une pièce pour Winnipeg en 2011, quelque chose comme
non,
ça.
Non, c'est que je viens de soumettre un projet pour le festival de... C'est pas grave. Ben, je pense que c'est pas secret. Mm-hmm. Pour le festival Send and Receive. C'est que je viens de l'envoyer il y a quelques jours à peine. Et là, j'ai décidé de remplacer les haut-parleurs que je vous décrivais tout à l'heure par des écouteurs.
Des écouteurs.
Un ensemble d'écouteurs. Donc ça, c'est maximaliste, minimaliste. C'est dans le sens que les sources, au lieu d'être diffusées sur des haut-parleurs, ben, ça veut dire que ça sera un mélange. Il y aurait à la fois un ensemble d'écouteurs et des haut-parleurs.
Je te posais la question parce que dans le fond, ça s'appellerait W12. Donc W pour Winnipeg, 12 pour l'année. Donc il y a quand même le lieu. Et...
Ça serait 12, W12.
OK.
Mais là, on fait comme si j'étais retenue. Je viendrai vous en reparler s'ils ont accepté mon projet.
On te le souhaite.
Ben, Hélène Prévost, ça a été un grand plaisir et un grand honneur que tu nous as fait de venir à notre émission. Nous, on avait très hâte, Myriam et moi, de te recevoir. Ça nous a
Merci.
Fait beaucoup plaisir. J'espère que les auditeurs vont en redemander et qu'ils vont t'écouter autrement. On se laisse donc avec une autre pièce.
En fait, c'est un fragment, c'est tout à fait typique de ma manière de travailler. Ça s'appelle Impro Pré-Amp. Je pense que ça ne peut pas être plus basique que ça. C'est... voilà.
Alors, on se laisse avec ça.
Merci infiniment.
Merci, Hélène Prévost.
Merci, Hélène.
Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique.